Alors, Sophie de Wilder, donc vous êtes psychologue, bonjour.
Bonjour.
Alors, première question, j'ai envie de vous poser. J'imagine que vous êtes aussi confiné, hein, comme la plupart des Français chez vous. Alors, comment vivez-vous votre confinement?
Eh ben, plutôt bien. En fait, je me suis aménagé un petit coin bureau, téléphone, SMS et ordinateur. Voilà. Ce que j'ai absolument pas l'habitude de faire, mais ça se passe bien.
Pourriez-vous nous expliquer un peu, vous êtes psychologue, mais pour quelle structure travaillez-vous et quel genre de public vous avez donc comme, on va dire, patient, entre guillemets?
D'accord, donc je suis psychologue clinicienne pour le point accueil écoute jeune de la vie active, qui est basé ici donc à Arras. On reçoit des jeunes de 11 à 25 ans pour toutes sortes de problématiques. On reçoit aussi des parents qui peuvent être en difficulté avec leurs enfants ou plus souvent leurs ados d'ailleurs. Et ensuite, on a créé il y a quelques années une mission particulière. C'est une mission d'accompagnement au deuil. Qui nous permet de recevoir toute personne concernée par le deuil, que ce soit réel ou symbolique, récent ou ancien, normal entre guillemets ou pathologique, à partir de 7 ans. Voilà.
Alors donc, cette période de crise sanitaire et épidémiologique, donc comment ça se passe? On voulait surtout parler avec vous de l'impact psychologique que peut avoir le confinement et cette crise sanitaire.
Alors, déjà, les gens sont très contents qu'on puisse continuer à parler, même si c'est au téléphone, même si on se voit pas. La plupart des gens sont vraiment très reconnaissants. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Peut-être que ça accentue ce qui n'allait déjà pas, en fait. Les gens qui étaient seuls, par exemple, mais qui pouvaient quand même sortir et voir du monde, même s'il n'y avait pas vraiment de contact. Les gens qui ont des difficultés particulières. Je pense à certaines maladies dites psychiatriques ou en tout cas psychiques. Évidemment, les violences conjugales, c'est compliqué. Je pense aussi aux gens qui ont vécu l'exil, que ce soit des adultes ou des ados qu'on appelle mineurs non accompagnés, et chez lesquels, en fait, il y a des résonances avec des choses qu'ils ont déjà pu vivre et qui n'avaient pas peut-être pas été élaboré, parler, digéré, quoi. Voilà.
Et quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on vous pose, les anxiétés, on va dire, qui sont le plus représentées?
Alors, en fait, pour les gens que j'avais déjà en suivi en face à face, on prend un petit temps pour voir comment ça se passe pour eux. Et ensuite, on reprend le cours du suivi, finalement. C'est assez étrange. Ce qui est assez étrange aussi, c'est que eux prennent de mes nouvelles. Voilà. Alors qu'en face à face, ça se fait pas. Comme si j'avais pas de vie ou j'avais une vie sans problème. Donc ça, c'est intéressant aussi dans la relation. Ensuite, pour répondre à la question, qu'est-ce qui ressort le plus? Ben, je pense des problèmes de sommeil, quand même. Des cauchemars. Des questions sur après comment ça va être, des problèmes de rapport à la nourriture, je vais le dire comme ça, ou trop manger ou pas assez manger.
Vous, en tant que psychologue, est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, ce confinement qui va peut-être durer, hein, on ne sait pas encore trop, hein, pour l'instant, mais qui va durer peut-être longtemps, est-ce que ça peut isoler un peu plus les personnes et puis les rendre un peu plus individualistes et avec moins de liens sociaux?
Alors, ça isole des gens qui étaient déjà isolés, je pense, mais ça accentue les choses. Et après, ce qui est vraiment chouette, c'est que finalement, il y a des gens qui ont vraiment des ressources et qui créent des nouvelles choses. Voilà, il y a des gens qui se mettent à coudre des masques pour les hôpitaux. Il y a des gens qui cuisinent davantage le soir et qui distribuent aux personnes âgées de leur quartier. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a aussi des initiatives positive. Je suis pas vraiment capable de dire ce qui va se passer après. Il y a quand même pas mal de psychologues et de psychanalystes qui parlent de syndrome post-traumatique. Donc effectivement, il y a ce qui se passe maintenant et le besoin des gens de parler maintenant dans leur vie quotidienne. Et puis après, quand on va sortir tous de ce truc-là un peu bizarre, qu'on va se réveiller et qu'il va falloir reprendre, alors, je pense pas la vie d'avant, mais en tout cas, d'autres repères, quoi.
Donc vous pensez qu'il y a aussi une certaine forme de nouvelle solidarité qui s'instaure?
Alors ben oui, parfois, et oui, je pense, ouais, je pense qu'il y a vraiment des initiatives plutôt sympas. Je regarde aussi un peu sur Internet ou en écoutant la radio. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est quand même une question de ressources, quoi. Quelles ressources on a et comment on peut se mobiliser pour soi, ses proches et puis les autres, quoi.
Et est-ce que parmi vos patients, il y a différents publics, hein? Bon, bah, j'imagine que évidemment vivre le confinement dans une maison avec un jardin n'est pas la même chose que quelqu'un qui vit peut-être dans des quartiers un peu isolés d'Arras et qui vit dans une tour. Est-ce que vous constatez vraiment des différences?
Alors oui, effectivement, je pense notamment à, alors c'est un patient un peu particulier, hein, qui a des problèmes, on va dire, psychiques, et puis quand il m'a appelé, je lui ai demandé comment ça se passait pour lui, et il a éclaté de rire en me disant, bah, c'est comme la psychiatrie, mais je suis tout seul et c'est plus grand. Voilà, par exemple, ce genre d'exemple. Après, pour les familles qui ont des enfants petits, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir une maison avec un jardin que d'être entassés entre guillemets à plusieurs dans des logements déjà pas très grands, quoi.
Quelles sont les premières, on va dire, indications que vous leur donnez à ces gens qui sont anxieux, qui ont peur, qui se demandent ce qui va se passer, comment ils vont vivre ça?
Alors, je leur propose des choses que j'essaie de d'appliquer à moi-même. C'est-à-dire, je pense que c'est important de garder un vrai rythme en fait, de se lever peut-être tous les jours à la même heure, d'avoir des rituels aussi, voilà, des heures fixes pour les repas, de peut-être mettre en place des choses qu'ils aimaient bien faire, qu'ils n'avaient pas le temps de faire, comme du sport, l'écriture, ça peut être pour certains, voilà, regarder certains films. Il m'arrive aussi d'envoyer des choses par internet, des petites vidéos, je pense à des petites vidéos, ben, bien-être entre guillemets, ce que je fais jamais, jamais d'habitude, ou des exercices de méditation ou de cohérence cardiaque. Alors pour ceux qui le demandent, hein, c'est pas, j'ai pas d'ordonnance type, hein, voilà, mais d'essayer de se concentrer sur la journée, en fait, que ça va être long et en même temps ça va être un jour à la fois. Tous les jours il y a des informations différentes qui peuvent être aussi anxiogènes, donc ça peut être bien de peut-être écouter une fois par jour et puis ça suffit de passer à autre chose. Voilà, après ça dépend des situations, s'il y a des enfants ou pas, des adolescents, bon, qui sont quand même souvent occupés par l'école, enfin les cours en tout cas en ligne.
On y reviendra juste après en ce qui concerne les cours. À votre avis, vous parliez du syndrome post-traumatique. Quelles sont peut-être des indications que vous auriez pu constater auprès de vos patients qui pourraient vous donner l'idée de ce qui pourrait se passer après?
Quand même pour beaucoup de gens, c'est une espèce de sidération par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai pas entendu de personnes remettre en question les informations, par exemple, ce qu'on peut entendre voilà, quotidiennement, et en même temps, il y a quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on sort? Il n'y a pas grand monde, on ne connaît pas encore de personnes directement concernées, donc c'est un peu bizarre, quoi. Je pense que ça correspond à la première phase du deuil finalement, cette espèce de choc comme ça qui empêche à la fois de se projeter, de penser. Voilà ce que je peux dire. Après, je peux imaginer que ça laisse aussi d'autres préoccupations de côté, c'est par rapport à la pensée, à l'élaboration, c'est un peu compliqué pour certains, oui.
Vous êtes aussi intervenante à la FERTES, hein, qui forme des éducateurs spécialisés. Tout est à l'arrêt en ce moment. Comment vous gérez un petit peu tout ça?
Alors, ben moi, j'ai quand même quelques suivis de dossiers, surtout pour les troisième année qui doivent rendre leurs derniers travaux là dans les semaines qui viennent. En fait, moi, j'ai choisi par classe un responsable ou une responsable à qui j'envoie un mail avec des rendez-vous téléphoniques très cadrés. Je laisse pas trop le choix en fait. Et puis entre deux, on travaille par mail. Je corrige beaucoup par mail. Voilà. Enfin, c'est des choses que je faisais déjà avant. Les étudiants sont plutôt contents de pouvoir parler. On prend toujours un petit temps aussi pour savoir comment c'est pour eux. Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont en famille? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Mais bon, pour l'instant, ils sont finalement assez contents d'avoir du temps pour finir leur dossier, hein, puisque tous les cours, enfin, je pense, les cours en groupe sont annulés. Peut-être il y a des choses qui existent en visio, mais ça, je sais pas trop, quoi.
Et enfin, pour terminer, si vous aviez un message, on va dire, de printanier à adresser à tout le monde qui serait anxieux, justement, ou qui se poserait des questions, ce serait lequel ?
Waouh, c'est compliqué, ça. moi, j'ai vraiment la chance de pratiquer le yoga et la méditation, ça m'aide beaucoup. Essayez de profiter peut-être de toutes les petites choses positives qu'on peut quand même noter dans sa journée. Alors par exemple, le soleil, ça faisait quand même des semaines qu'il faisait moche. Et là, il fait très beau. Certes, il fait froid, mais essayez peut-être d'ouvrir sa fenêtre, d'aller sur son balcon, enfin, chacun comme il peut, ou dans son jardin. Être dans le moment présent, c'est bien. Je sais que c'est pas toujours facile avec la peur et l'anxiété, mais ça permet aussi de faire descendre certaines émotions négatives et puis d'avancer petit pas après petit pas, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Sophie De Wilder, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et bonne continuation à vous, bon confinement et puis bonne chance donc pour la suite.